Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut les extraterriens! Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course, et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum l'Épargne, notre partenaire. Quorum l'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Ils proposent des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum l'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum l'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Eh bien, salut Tessa.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Eh bien, écoute, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Au Grand Bornand, je te disais que j'ai un attachement tout particulier pour cette ville et cette station de ski parce que j'y ai passé beaucoup de colonies et beaucoup de gamelles, beaucoup de chutes, beaucoup de fous rires étant enfant. J'y suis allé qu'une fois depuis l'aventure extraterrestre avec Benjamin Davier que tu connais bien, je crois.
Très bien, ouais. Ouais. En effet.
Vous êtes bons amis?
Ouais, on est bons amis. Bah, surtout, on a fait toute notre école primaire ensemble.
Ouais, vous êtes la même génération.
On est de la même année d'âge.
90
89.
89, pour toi.
Ouais. 89 et bon bah on est voilà c'est un beau village avec de belles traditions et c'est vrai que ouais en effet on a souvent de beaux souvenirs au Grand Bornand donc ça m'étonne pas que tu t'en rappelles.
Ouais. Alors ça m'a pas empêché de me perdre ce matin parce que du coup je me suis trompé
il y a c'est grand hein, attention.
Il y a deux offices du tourisme et je me suis rendu à la mauvaise mais maintenant je connais comme ma poche donc voilà. Ça n'arrivera plus pour un prochain épisode. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce que je sais que tu te fais un petit peu discrète aussi avec les médias. Pas toujours, mais petit peu plus en ce moment, peut-être. peut-être que tu nous diras pourquoi. Mais en tout cas, j'étais vraiment un grand fan, en tout cas, tu vois, de ton parcours. Et j'étais content de pouvoir débriefer un petit peu ça avec toi maintenant. Mais avant tout ça, il y a une question traditionnelle à laquelle Benjamin a répondu, à laquelle les 200 invités d'Extraterrien ont répondu avant. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Alors, mon premier souvenir de sport, je dirais que c'est... Donc, moi, mon histoire d'enfance est un peu particulière parce que j'ai un papa australien néo-zélandais et une maman française. Donc, on a vécu des hivers qui ont duré toute une année à chaque fois, jusqu'à l'âge de 7 ans. Et j'ai le souvenir d'être dans un jardin d'enfants là-bas en Nouvelle-Zélande avec ma maman qui avait tout décoré le jardin d'enfants et puis on s'amusait avec mon petit frère à glisser simplement sur la neige. C'est un petit peu moi mon premier souvenir parce que c'est vrai que sinon quand on est tout gamin c'est difficile d'avoir des choses bien précises. Après je sais que ma maman aimait bien me raconter aussi on avait une petite allée enfin une petite descente pour aller au garage là-bas qui était souvent enneigé et depuis toute petite je demandais qu'une chose c'était chausser les skis et à descendre cette petite pente et on mettait déjà des bâtons pour pouvoir faire un petit slalom etc donc moi j'avais à peine 2 ans je crois donc c'était très précoce.
Ok je vois ça parce que maman était prof de ski c'est ça?
Ouais c'est ça ma maman est toujours d'ailleurs monitrice de ski mon papa l'a été aussi. Et donc ils enseignaient le ski au Grand Bornand, enfin dans les Aravis, en hiver en France et l'hiver en hémisphère sud en Nouvelle-Zélande.
Ok, donc j'ai peut-être eu ta maman en plus en tant que
monitrice.
Ah c'est
monitrice. Possible, c'est possible, ouais. Mad.
Je sais pas. J'ai pas un très bon souvenir des prénoms alors.
Ouais, c'est dur. Ouais.
Mais je pourrais peut-être lui dire les colonies de Fontenay-sous-Bois, peut-être qu'elle s'en souviendra. ok, et c'est pas trop. Difficile pour une enfant de... Il me semble que vous faisiez 6 mois de l'année du coup en Océanie, Nouvelle-Zélande et Australie comme tu l'as dit, et 6 mois de l'année du coup en France pour essayer de garder le rythme plutôt hivernal.
Ouais, tout à fait.
C'est pas... peut-être avec le recul, je sais pas, trop compliqué de bouger tous les 6 mois et de prendre l'avion sur ces grosses distances-là ou au contraire... C'est quelque chose qui t'a construit.
Ah ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous a construit avec mon petit frère. Non, c'était... En fait, je pense que sur le coup, on n'avait pas connu autre chose, parce que depuis qu'on était tout bébé, en fait, on a fait ces voyages. Je pense que quand on est enfant, on s'adapte énormément à la situation. On a vraiment une capacité d'adaptation qui est incroyable. On changeait de langue, on changeait d'école, on changeait, enfin voilà, on s'adaptait totalement à notre environnement. Et moi, j'ai que des bons souvenirs de cette époque-là. Après, ben non, les voyages, c'était plutôt l'aventure, c'était génial. Donc, je pense que ça a vraiment développé mon envie de voyager, de découvrir, d'apprendre. Et puis après, c'est vrai que quand on s'est posé en France au Grand Bornand, bon, c'est sûr que c'était appréciable quand même de vivre les saisons. Aussi d'avoir une année scolaire normale, de m'attacher un petit peu plus à mes amis notamment.
Parce que tu faisais le reste de l'année en correspondance, c'est ça ?
Ouais, exactement. Okay. Ma maman nous faisait l'école. Bon, après c'était les petites classes, donc c'était pas encore trop compliqué de suivre. Mais voilà, c'est vrai qu'on quittait nos amis 6 mois dans l'année, donc c'était plus difficile de créer peut-être des liens.
Ouais.
Donc après, quand on s'est vraiment posé au Grand Bornand, là j'ai fait J'ai lié de vraies belles amitiés d'enfance et puis on a vécu l'été aussi en station qui est génial ici. Enfin voilà, on a découvert aussi d'autres choses et j'ai aussi beaucoup apprécié.
C'est à quel âge que vous installez en France au Grand Bornand?
Je pense que j'avais 7 ou 8 ans à peu près.
Ok, ouais.
Ouais, donc on
donc le voyage, t'a vraiment façonné
les toutes premières années de ma vie, ouais.
Ok. Et tu disais que c'était pas trop compliqué de faire l'école par correspondance, mais pour tes parents, ou tu as mentionné ta maman, bravo, parce que avec des enfants plus jeunes, ils ont quand même moins d'attention, moins d'autonomie, et
c'est sûr,
c'est plus compliqué à tenir. Donc bravo à elle, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, je pense qu'elle a, elle nous a bien. Bien suivi, bien aidé là-dedans. Après, ben, comme je disais, c'était les classes, voilà, les premières petites classes où ben, on découvre finalement le, un peu la scolarité. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi la différence entre la technique française et puis un petit peu plus anglo-saxonne. Okay. C'était très différent, mais c'était super sympa. Donc, on n'a eu aucun... On n'a pas eu de retard, on n'a pas eu de difficulté à reprendre un rythme normal par la suite. Non, donc elle a fait du bon boulot.
Non, mais ouais, et puis j'imagine. Puis je pense même qu'à cet âge-là, tu vois, ça doit faire du bien d'avoir un petit peu plus de liberté pour enseigner les choses, tu vois, beaucoup plus par peut-être du sensoriel, par d'autres choses, et plutôt que dans une classe avec 30 élèves, c'est pas toujours facile, quoi.
Ouais, ouais, donc, complètement. Okay. Complètement, ouais. On faisait. Enfin, je me souviens qu'en Nouvelle-Zélande, on faisait beaucoup de choses. Enfin, les niveaux étaient un peu moins définis. Mmh. C'était une beaucoup plus petite école. Et on faisait beaucoup de choses dehors, beaucoup de choses liées à la nature, liées à nos passions, liées à plein de trucs. Et c'est vrai que j'avais beaucoup moins l'impression d'être à l'école, en fait. J'avais okay. juste l'impression d'aller en faire des activités avec des copains de mon âge, quoi. Donc,
Ok.
Ouais, c'est intéressant.
Ça t'inspire, toi, ce modèle soit ce modèle hybride, soit ce modèle anglo-saxon dans l'éducation, ou le modèle de, tu as de l'école à la maison. Vu que t'as un peu touché à tout, enfin goûté à tout, tu vois. Après, effectivement, t'étais jeune, c'est pas forcément évident de te souvenir de tout. Mais qu'est-ce que t'auras envie de piocher, toi, peut-être pour tes enfants, ou pour l'éducation, si demain tu étais ministre de l'éducation nationale.
Oula.
Lourde responsabilité. Non, mais qu'est-ce que t'en piocherais, enfin qu'est-ce que tu piocherais comme bonne habitude?
Ben un petit peu comme je le disais, ce qui nous entoure, ce qui nous entoure et l'environnement, nos passions nous apprennent énormément, en fait. Enfin, on peut déjà apprendre beaucoup avec la nature, avec le sport, avec plein de choses qui sont à portée de main de tous. Et voilà, c'est ça un petit peu que je retiendrai. Après, oui, comme tu dis, j'étais très jeune, j'ai eu une toute petite expérience, mais je trouve que ça a développé plein de choses chez nous, beaucoup de curiosité avec mon petit frère. On a et puis pour autant, on a quand même cette capacité à travailler, à être scolaire. Moi, je sais que j'étais une enfant très scolaire. Okay. J'aimais bien remplir mes cahiers tout nickel. Ça m'a d'ailleurs suivi pendant ma carrière. Voilà, c'est ça que je retiendrai peut-être au-delà des livres, des manuels, des choses comme ça. Vraiment, dans tout ce qu'on vit au quotidien, il y a à apprendre tout le temps.
Ouais, bien sûr. Puis ça fait du sens, je trouve, aussi dans le monde dans lequel on vit, tu vois, en 2023, au 21e siècle, où on s'apprête quand même à vivre une crise un peu écologique, tu vois, et un changement de paradigme où tout a toujours été à volonté, et là, il faut qu'on commence, faut sérieusement qu'on commence un peu à regarder.
Ouais, ouais, se remettre en question.
Être au contact de la nature, ça doit être aussi, je pense que c'est une bonne chose, tu vois, à développer chez les enfants.
Totalement.
De faire plus de choses. J'avais écrit un post sur LinkedIn qui disait, pour sauver le monde, nos enfants n'ont pas besoin de lire Madame de Bovary, mais ils feraient un peu plus, ils devraient peut-être passer un peu plus de temps dans la nature. Je sais que ça a fait beaucoup réagir et que les gens beaucoup de gens étaient pas d'accord avec moi.
Oui, oui, bien sûr.
Mais effectivement, dans cette perspective de voir le monde autrement, il y a peut-être d'autres priorités que des choses très très scolaires. Enfin bon, petite aparté.
Faut s'ouvrir.
Faut de tout.
Faut de la curiosité, de tout. C'est quelque chose, comme je disais, que j'ai développé aussi tout au long de ma carrière. J'aime beaucoup apprendre, que ce soit dans ma discipline, dans d'autres, dans ma manière d'être, sur moi-même. Et je pense que ça, c'est la meilleure école de la vie. En tout cas, c'est ce qui m'a donné le plus d'armes pour aujourd'hui, maintenant que je vais faire autre chose. Je ne sais pas encore quoi, mais voilà quoi.
Ok. quid de l'école, justement, tu as dit que tu étais très scolaire.
Ouais.
J'ai l'impression quand même... après toutes ces interviews, qu'il y a quand même un pattern dans les athlètes de haut niveau. Ouais. Il y a d'un côté les très bons élèves qui sont bons un petit peu partout et qui s'en sortent très bien et qui reproduisent, on va dire, un peu certains mécanismes de l'école au sport et du sport à l'école. Et puis il y a tous ceux qui pour qui l'école c'était quand même beaucoup plus dur, quoi. C'était j'ai l'impression que t'étais dans la première équipe, mais comment ouais. tu te définirais toi en tant que adolescente et comment est-ce que tu te sentais toi à l'école?
Je me définirais comme quelqu'un d'assez discret. J'étais plutôt timide à okay. l'école. Comme je disais, assez scolaire. J'aime bien comment dire avoir un plan. Mmh. et dérouler ce plan pour atteindre un objectif. Alors ça, c'est une analyse que j'ai faite plus tard, mais en fait quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'aimais bien suivre les consignes parce que mmh. pour moi je savais que ça allait m'aider à atteindre mon but. Voilà, mais plutôt quelqu'un d'assez discret, assez timide, et je pense que le sport, le ski en particulier, m'a fait développer chez moi un autre côté de, enfin un autre trait de caractère, plutôt voilà ce trait de compétitive, enfin vraiment j'avais vraiment deux caractères bien différents, bien distincts. Et quand j'étais sur les skis, féroce un peu, et puis dans la vie, plutôt douce.
C'est vrai qu'on dirait pas ça de toi, mais pourtant ça se dit souvent
ouais.
que t'es peut-être deux personnalités un peu différentes. Est-ce que
ouais, complètement.
Tu l'as travaillé ça avec ta carrière?
Oui. Je pense que justement, adolescente, enfant, j'étais plutôt. Plutôt une jeune fille assez douce, assez timide, comme je le disais, mais quand même bien déterminée. Et j'avais envie de faire du sport, de m'amuser. Et puis en fait, petit à petit dans ma carrière, c'est vrai que j'ai découvert que j'avais aussi quand même un trait de caractère assez fort et que j'étais pas seulement, que j'avais pas envie de laisser gagner les autres, que j'avais vraiment cette capacité à me transformer au départ, notamment d'une compétition. Et ça, oui, je l'ai développé. Je l'ai développé au fur et à mesure. Et c'est même devenu une grande force. On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais vraiment sur la discipline, le slalom géant notamment, où il y a deux manches. La deuxième manche, il faut vraiment aller chercher profondément au fond de soi un engagement total et ouais, de l'agressivité parfois sur certaines pistes, et c'était vraiment un point fort chez moi.
Ok. Pourquoi tu dirais que c'est de l'agressivité?
C'est dur à définir, j'arrive pas à trouver les bons mots là.
Ouais.
Peut-être c'est pas forcément le bon mot, l'agressivité.
Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui revient souvent et.
Être péchu, quoi, je sais pas.
Ouais, il faut que ça te pique un peu dans ton. Et puis, il faut qu'il y ait un peu d'orgueil aussi, peut-être. Un peu d'ego.
Oui, ouais. Bien sûr, de l'orgueil, de l'ego. Je parle d'agressivité parce que dans le ski, oui, c'est un mot qu'on emploie pour qualifier certaines façons de skier ou pas. Moi, c'est vrai que j'avais une façon assez dynamique et agressive. Mmh. C'est-à-dire que j'étais beaucoup sur l'écart, beaucoup en puissance. Mmh. Moins en fluidité, moins en glissement, comme certains autres athlètes peuvent avoir comme qualité. Moi, c'était plus l'inverse, plutôt la technicité aussi.
Ouais.
Donc,
on sent que t'attaques.
Donc, ouais, l'attaque, vraiment, ouais.
Très vers l'avant et.
Okay. Tout à fait, ouais.
Ok. Et toi, c'est une image qui te parlait, l'agressivité? De transformer justement la petite Tessa un
ouais.
peu timide, bonne élève et scolaire, de réveiller un peu, je vais pas dire l'animal, tu
ouais,
vois.
Ouais, si, un petit peu, ouais.
Qu'on a en soi, mais
complètement.
Ouais, c'était ça.
Ouais, c'était ça. C'est vrai qu'au départ, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai utilisé un peu des outils de préparation mentale, des techniques pour vraiment me mettre dans une. Ouais, dans un état second au départ, gagner en agressivité, oui, clairement, que ce soit dans le regard, que ce soit dans la tonicité de tous les muscles de mon corps, que ce soit même quand je m'exprimais, enfin, je m'exprimais pas beaucoup au départ, mais quand il y avait quelque chose à dire, c'était très, très direct et okay. Ouais, ouais. J'avais ma ligne de conduite. Il va me déranger.
Ok. Tu saurais expliquer le process pour partir du point A, Tessa normal sur un jour, un jour lambda, tu vois, peut-être à quelques jours d'une compétition, à arriver psychologiquement avec cet état d'esprit justement de gagnante, on va dire à 100% en haut de ta plus belle course, tu vois. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers que tu fais ou des choses que tu vas te dire? Qu'est-ce que tu mets en place justement pour y arriver?
C'est un tout, je dirais. C'est d'abord la concentration qui devient de plus en plus précise. C'est vrai que sur une journée de course, on ne peut pas garder une concentration totale sur toute la journée. Donc, c'est quelque chose que, à l'approche du départ, vraiment, je précise, quoi. Enfin, vraiment, avec la visualisation, avec des petites routines physiques, l'échauffement, des choses comme ça. Et puis non, après, ben c'était plus mon entourage aussi, parce que au départ d'une compétition, on est entouré de notre staff, une partie du staff médical notamment, le kiné, mais aussi le technicien, un entraîneur aussi peut-être, mais surtout mon technicien qui me connaissait très très bien et qui avait les bons mots, je dirais, au départ pour vraiment m'aider à me mettre dans cet état là. Et puis après, non, c'était beaucoup moi dans ma tête, de me parler dans ma tête en fait. Mais
c'était quoi les mantras que tu peux te dire? S'ils sont avouables, bien sûr.
Ah, oui, non. Pas... Alors après, est-ce qu'ils sont compréhensibles? Je sais pas, parce qu'il y avait beaucoup de choses, un peu des intentions techniques. Okay. Donc, par exemple, aller devant, aller dans la pente, reprendre fort, parce que fallait souvent venir résister sur sa jambe extérieure. Tendre les trajectoires, enfin voilà, c'était beaucoup des choses techniques pour me les mettre en tête. Mon technicien, lui, il me disait beaucoup des choses un peu plus pour la confiance, quoi. Il me disait c'est toi, enfin voilà, des trucs bateaux, hein, mais c'est toi la meilleure, c'est les filles, elles savent que c'est toi la meilleure, tu vas les bouffer en deuxième manche, etc. Et moi, j'avais plus une approche très personnelle, quoi. C'était beaucoup plus sur moi, sur ma capacité à justement avoir l'énergie, à être juste techniquement, etc. Enfin, je me focalisais pas trop sur les autres.
D'accord.
Au contraire, je pense que c'était important de vraiment être très juste techniquement, être concentré pour faire la bonne course tactiquement aussi.
Ok.
Et puis après, mon technicien me donnait juste les petits mots de confiance par rapport aux autres, quoi.
Ok, mais c'est intéressant. Je pratique beaucoup ça aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'en fonction des moments, me répéter des mantras, les mantras vont pas du tout être les mêmes en fonction de ce qui va m'arriver dans la journée, tu vois. Ce matin, tu vois, comme je t'ai dit, j'avais deux interviews. Je me suis pas concentré sur être à l'heure, mais plutôt effectivement sur être souriant, être à l'écoute, savoir rebondir, te mettre à l'aise. Et tu vois, je me le répétais, tu vois, je me répétais beaucoup plus ça que t'es productif, t'es organisé, t'es à l'heure.
Ouais.
Du coup, je me suis manqué. Mais les deux sont intéressants. Et toi, est-ce que tu justement t'allais adapter ton discours?
Totalement.
Ouais,
complètement. Moi, justement, la préparation mentale, ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma carrière, ma routine aussi, elle évoluait énormément en fonction de comment je me sentais. En fait, j'avais compris que justement, je pouvais pas mettre en place une seule routine qui allait être tout le temps la même, que j'allais tout le temps répéter, parce qu'en fait, j'avais des états différents à chaque départ de compétition, chaque course était différente et proposait un scénario différent. Le ski, c'est vraiment un sport pour le coup où on doit s'adapter tout le temps, la neige, la météo, le tracé, la piste, plein de choses. Donc non, j'étais pas du tout dans quelque chose de trop trop ancrée, trop carrée. C'était beaucoup plus à l'écoute de moi, quoi, à me dire ouais. Là, ça y est, t'es dans ton état, c'est bon, tu maintiens cet état et t'y vas. Ou alors, non, là, t'es pas encore tout à fait, continue, continue. Ça m'est arrivé de pas réussir à me mettre dans cet état, ça m'est arrivé d'aller trop loin et au contraire, ben, que cet état, il soit pas bénéfique et, enfin, voilà. Donc, c'était vraiment une balance à trouver, un juste milieu et. Et bah faut bien se connaître, je pense, pour arriver à ça.
Ouais, bien sûr. Ouais,
je l'arrivais mieux à le faire en fin de carrière, forcément.
Ouais, ouais. J'imagine. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis de à la fois garder quand même des ancrages avec ce que tu te répètes et certaines habitudes, et en même temps essayer de garder un maximum d'agilité. Parce que, bah, comme tu l'as dit, le sport, rien n'est prévisible finalement,
ouais,
même
totalement.
Si on peut. Contrôler la limite est très fine entre ce qu'on contrôle et effectivement tous les éléments extérieurs. Quand tu parles de cet état, ça attise un petit peu ma curiosité. Est-ce que il y a des signes physiques ou psychologiques qui te faisaient dire tiens là j'y suis en fait? Je sais pas, ça pourrait être les mains moites ou voir les couleurs peut-être un peu plus intensément ou se mettre à transpirer ou se mettre sentir le rythme cardiaque qui est ralenti ou qui s'élève, je sais pas. Est-ce que toi il y avait des, c'était quoi le petit signe qui te faisait dire tiens là c'est dans le ventre que tu le sens? C'est
non, je dirais que j'étais plus j'étais super alerte, je sais pas comment dire, je voyais tout. J'étais hyper concentrée sur mon objectif, mais je voyais quand même tout. Par exemple, je sais pas si une personne de mon staff à côté de moi avait un petit truc ou à la radio il entendait un truc bizarre, j'arrivais à le percevoir, mais ça me sortait pas de mon. Enfin voilà, je sais pas, j'avais les sens qui étaient super. Alors bon, pas pour tout. Hein, y a des choses, ils étaient très bons pour cacher certains petits pépins. Et puis du coup, bah ça nous protégeait. En fait, ça nous permettait de rester vraiment concentrés sur notre truc. Mais j'avais quand même cette sensation, ouais, d'être. Je voyais un peu la fille avant moi qui se préparait. En fait, il y a des bips de départ pour nous dire dans combien de temps on va partir, etc. Donc j'avais ça vraiment, je savais exactement dans combien de temps j'allais partir. J'étais assez quand je suis alerte comme ça, mais en même temps pas dispersée. C'était un petit peu mon repère.
Okay.
Après physiquement, bah pareil, ça dépendait, ça changeait aussi un petit peu de temps en temps, donc j'essayais de pas trop me fier à ça, parce que parfois je pouvais avoir l'idéal, c'est de se sentir hyper dynamique, tonique, de sentir ses muscles bien présents, mais pas non plus déjà fatigué, quoi.
Ouais.
Mais bon, parfois, ça pouvait arriver de s'échauffer, de déjà sentir les jambes lourdes, d'avoir des petites douleurs, des petits trucs. Donc, c'est pour ça que, ouais, physiquement, je m'attardais pas trop à ça.
Ouais. Ça peut être un mauvais indice. Tu vois, j'en parle avec quelques athlètes. Il y a eu différentes études scientifiques sur des athlètes, notamment sur le Tour de France, avant qu'ils partent. Est-ce que t'as les jambes lourdes? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que t'es fatigué? Est-ce que t'as des bonnes sensations?
Ouais.
Et j'en parlais avec Tess Le Deux aussi, d'ailleurs, que tu connais bien également.
Ouais.
Et en fait, entre les sensations que tu peux avoir le matin et les résultats, souvent il y a une décorrélation qui est complète.
Et
Tess, elle me le disait, qu'il y avait plein de matins où, notamment quand elle était un petit peu plus jeune, avec un peu moins d'expérience, elle se levait avec super sensation, forme énorme, et en fait deuxième saut, excès de confiance, excès d'énergie et chute. Et à l'inverse, des jours où au contraire, elle a moins de sensations, elle est encore plus en alerte, plus concentrée, tu vois, et le mental vient compenser un peu ces mauvaises sensations du corps, et c'est là qu'elle a claqué ses plus beaux sauts, quoi. Donc, faut parfois se méfier un peu des sensations corporelles, quoi.
Ouais, faut se méfier, faut se méfier, c'est clair. Et puis, j'ai expérimenté dans ma carrière des matins où je me disais, ça va pas faire du tout. Et alors qu'en fait, rien n'est joué d'avance, au contraire. Et je me suis battue jusqu'au bout et finalement, ça a été une très très bonne journée. Ouais. Donc ouais, en effet, dans les deux sens, faut pas faire le scénario de la course avant de courir, quoi. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai appris par rapport à ça, ouais. Et puis bon, dans le ski, on a aussi forcément, les sensations sont toujours au rendez-vous, c'est de la glisse. Et... Donc on est très, je pense, focalisé sur ces sensations. Sensible, ouais, en effet, à ces sensations. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, de me faire un peu avoir, d'avoir de très mauvaises sensations et en réalité d'être rapide. Ou à l'inverse, de très bonnes sensations et de ne pas être rapide du tout sur la compétition ou sur l'entraînement. Donc, j'ai appris à me méfier un tout petit peu de ces sensations, même si moi, j'aime beaucoup travailler avec ça, j'aime beaucoup ressentir les choses. Donc, okay. Voilà, c'était un outil intéressant, mais pas fiable à 100%. Okay.
Tu nous racontes une journée justement d'une course où ça s'est pas bien, tu t'es pas levé du bon pied et ça aboutit avec un très très beau souvenir. Il y a une journée en particulier.
Ouais, j'en ai une en tête.
Il y a
ouais.
tellement de titres, tu vois. je peux pas essayer de piocher, tu vois.
non, mais j'ai une Coupe du Monde en tête, en effet. À Maribor. Alors l'année, par contre, tu m'excuseras, je l'ai plus en tête. C'est une victoire à Maribor, donc. Mais c'est vrai que j'étais.
2019 peut-être.
C'est possible. Non.
Ah non.
Je pense que c'était plutôt 2017.
Ok.
Ouais, non, mais oui, je crois que c'est 2000.
Je t'embête pas.
Voilà, en tout cas, alors, il me semble que je jouais le maillot rouge, donc le classement général de la discipline.
Ouais.
Et donc, j'étais très stressée par ce classement. Enfin, je commençais à être très stressée parce que, l'hiver avance. J'avais le maillot rouge sur les épaules, donc ça voulait dire aussi que ce classement devenait de plus en plus concret et je me faisais parfois un peu envahir par la pression de ce résultat-là, alors que chaque course était hyper importante à négocier avant de pouvoir parler de classement général. Et bref, ce matin-là, je me réveille une très très mauvaise nuit, physiquement pas très bien. Justement, j'avais l'impression d'être un petit peu à côté de mes chaussures de ski. J'avais l'impression de pas très bien ressentir les choses, de techniquement que ça allait pas jouer. Et puis je me suis dit non, mais de toute façon, on lâche pas une journée comme ça, parce que si tu lâches une course comme ça, justement pour ton classement, ça va être ça va te coûter très très cher. Donc voilà, j'ai quand même mis en place plein de choses. J'ai peut-être justement, j'étais encore plus alerte et j'ai peut-être encore plus essayé de travailler mentalement pour me mettre dans mon état de compétition idéale.
Il sent ton staff quand t'es un peu
je pense qu'il
pas
sent
dans ton assiette.
Je pense qu'il le sentait, ouais. Il le sentait. Après, ça doit être difficile aussi pour un staff de savoir ce qui est bon pour l'athlète, en fait. Je pense qu'ils aident, ils essayent de communiquer, de parler, mais ça doit pas être évident de savoir ce dont on a besoin, quoi. Mais bon, là en l'occurrence, j'avais besoin de mettre les skis. Donc quand j'ai mis les skis, ça m'a déjà fait du bien. J'ai arrêté un peu de cogiter. Et puis je me suis focalisée un peu plus sur mes sensations. Je me suis rendu compte que finalement ça allait. Je savais encore skier. C'était pas dans la nuit que j'avais oublié. Et puis j'ai fait remonter la confiance en fait petit à petit dans la matinée. Et en fait, j'ai eu cet engagement, cette détermination a été décuplée par le fait que je me sentais pas bien le matin. Et puis au final, je gagne la course avec un petit dixième d'avance, je crois. Ça s'est joué très serré, mais voilà, j'avais cette petite volonté en plus et puis cette concentration aussi peut-être en plus par rapport à d'autres, parce que c'était un moment de la saison où il y avait aussi un peu de fatigue peut-être. Donc voilà, c'est une journée qui m'a coûté cher en énergie, mais finalement qui s'est très bien passée malgré de mauvaises sensations. Ouais.
Ok. Ça serait quoi ton plus beau souvenir du coup après après tout ça, là, c'était un souvenir où je pense que tu dois être très fier, tu vois, d'avoir renversé la balance.
Bien sûr.
Ça, c'est des victoires qui font grandir en confiance en soi et en puissance. Mais je sais pas, entre le public, entre la satisfaction personnelle, la satisfaction en équipe aussi, parce qu'il y a certaines histoires qui se construisent à plusieurs.
Ouais.
Et j'aimerais bien un petit peu qu'on en parle après de ton staff et de comment tu gérais les différentes relations. C'est laquelle que, si tu devais en retenir qu'une, ce serait laquelle?
C'est dur. C'est dur. À chaque fois qu'on me demande, je change un peu. Parce que c'est hyper dur de choisir une.
Si tu veux, je peux la demander différemment. Je peux te demander s'il y avait une fiesta où tu devrais t'en souvenir, ce serait laquelle? Parce que généralement, une fiesta après, déjà, ça peut être plus sur un globe, tu vois, c'est-à-dire plus sur une célébration, tu vois, qui est dans la durée.
Bien sûr.
Parce que souvent, c'est ça, en fait. C'est aussi l'intensité à laquelle tu as désiré les choses et désirer un globe, c'est toute une saison.
Alors,
quoi.
Je dois pas être bien forte pour faire la fiesta parce qu'à chaque fois, j'étais ou trop épuisée ou j'avais des obligations ou des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment les fiestas qui me... Pourtant, il y en a eu un. Sans moi, ça je sais, mais moi j'ai rarement. Alors après, s'il y a eu fin de saison, quand le temps a un peu passé, mais c'est vrai que sur le coup, non, la fiesta, peut-être à Saint-Moritz, en effet, après le géant, c'est celle où j'ai pu le plus profiter après, on va dire. Malgré les obligations, malgré tout ça, c'est vrai que toutes les autres, que les globes ou même la médaille à Schladming, je me souviens, c'était un marathon d'obligations, de médias, de choses comme ça. Alors c'était génial parce que j'étais portée, et puis j'étais heureuse parce que voilà, le résultat était là. Mais ouais, j'ai pas eu le temps de mettre les pieds sur terre et j'ai enfin pu respirer quand j'étais dans ma chambre toute seule, quoi. Donc c'est un peu dommage. mais voilà. Mais Saint-Moritz, non. En plus, on avait fait la médaille par équipe, médaille d'or quelques jours auparavant. La médaille individuelle, c'était pas la concrétisation, mais par contre, c'était un objectif ultra important dans mon hiver que j'ai réussi. J'ai été attendue, j'étais la favorite, et du coup, il y a eu de la pression ce jour-là, mais ouais, c'était une très belle journée, et du coup, qui a pu aussi se terminer. De façon géniale. Donc après, je sais pas si tu veux qu'on parle en détail de cette journée, mais
j'aimerais aussi comprendre en quoi ça aide d'être à la maison, tu vois, enfin à la maison un peu plus, en tout cas que un peu plus qu'ailleurs. Enfin, derrière ma télé ou en bas d'une piste, tu vois, j'ai du mal à ressentir l'effet du public, tu vois, sur hormis peut-être là, en regardant les vidéos, tu vois, on entend que sur le départ ça hurle dessus, et tu fais pas un excellent départ, il me semble que
sur Saint-Moritz, non,
tu fais une petite fin,
exactement,
tu failles faire une faute de car,
exactement,
au bout de 3-4 portes, je crois, au moment où tu es encore en train de pousser.
Ça a d'ailleurs été une faute qui m'a aidé, je pense, à aller chercher le titre.
C'est vrai.
Ouais, parce que je pense que j'étais un peu trop crispée par l'enjeu. Et du coup, je pars et je fais quelques portes. On sent que je suis un peu... Voilà, je suis pas tout à fait moi. Quand je skie, je lâche pas complètement. Et cette petite faute dans ma tête, c'est le déclic. Je me dis, si j'avais un peu d'avance, parce que j'étais en tête à la première manche, si j'avais un tout petit peu d'avance, maintenant j'en ai plus. Donc c'est faut y aller. Et c'est à 100%, faut tout donner. Et du coup, derrière, j'ai commencé vraiment à skier, à engager et à aller chercher cette médaille, quoi. Avant, je la protégeais un peu, et cette faute m'a permis de changer de mode, quoi.
Ouais.
Donc, mais oui, par rapport au public. Alors, les cris que t'entends au départ, c'est mon staff. Beaucoup. Ils faisaient beaucoup de bruit pour. Ils n'étaient pas nombreux, hein, mais. Enfin, ils étaient 3-4 peut-être. Et ça, c'est vraiment un cri qui me pousse au départ et qui me bah, qui faisait partie un peu de ma routine pour me mettre dans mon état.
Il le faisait à chaque fois ?
Ouais. Okay. Ouais, ouais, j'avais toujours le même type d'encouragement. Alors, c'est marrant parce que mon technicien Dylan, il avait un encouragement un peu particulier qui montait crescendo ouais. en son. Après, il y avait le kiné qui avait d'autres façons de faire. Enfin, voilà, mais c'était. Ça a toujours été pareil.
Tu les entends encore une fois que t'es lancé ?
Non, 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 pas du tout. Même. Non, non, ouais. Même au début, ça fait tellement partie de mon. Ouais. De mon état que même au début c'est plus s'il y a pas de bruit que je remarquerai quelque chose en fait.
OK.
Donc c'est ça qui est un peu bizarre mais voilà, sur le bord de la piste on n'entend pas précisément les choses. On est enfin moi en tout cas j'entendais c'était plus un bourdonnement et puis il y a l'arrivée bien sûr mais là c'est plus un partage parce qu'on est moins dans le On est moins dans la concentration, on est plus dans, bah justement, on exulte, on explose de joie et on peut partager quoi. Donc après Saint-Moritz, c'était très belle ambiance, Schladming très belle ambiance. Après quand on parle d'être à la maison, c'était Courchevel-Méribel récemment là.
Ouais,
là
sûr.
c'est une autre forme d'énergie, je dirais. Ça, c'est plutôt, on sent que c'est vraiment, on a envie de se nourrir en fait de cette énergie-là. Donc, le petit bourdonnement qu'on entend tout au long de la piste, voilà, c'est quelque chose, j'essayais de m'en nourrir. Les encouragements au départ étaient peut-être un petit peu plus... Il y en avait peut-être plus de personnes différentes. Voilà, c'est un peu la particularité d'être à la maison, mais
okay.
C'est très sympa aussi.
Ça t'a fait plaisir, toi, de terminer un peu justement sur cette... Sur cette compétition à la maison et
ah oui
est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons pour par rapport à la date à laquelle t'as choisi de mettre ta carrière?
Oui, je pense. Ouais, ça a été en fait j'ai pas mal réfléchi par rapport à l'arrêt de ma carrière. Je savais pas trop comment m'y prendre, quand serait le bon moment. On m'avait dit tu le ressentiras, etc. Mais bon, je me disais ressentir quoi? Enfin, j'avais du mal à comprendre ça. Et donc, ça faisait déjà depuis, je dirais, 2019-2020 que j'avais commencé à réfléchir, à me dire, t'es plutôt en fin de carrière, comment t'as envie d'arrêter, quels seraient encore tes objectifs, etc. Et je m'étais fixé les Jeux en 2022 en me disant, une Olympiade, ça paraît logique. Et puis, j'étais vraiment pas sûre après les Jeux de encore faire une année parce que c'est vrai que toute une préparation, ça demande énormément d'énergie, énormément de volonté. Et je savais pas si j'avais encore cette énergie en moi, en fait. Donc, c'est pour ça qu'après chaque saison, je me posais la question, je me consultais un petit peu pour savoir si j'avais encore en moi ce qu'il fallait pour aller chercher des victoires, des podiums, parce que c'était vraiment le but. Moi, quand j'avais plus cette petite étincelle, cette petite flamme, c'était le moment. Enfin voilà, je savais que ce serait le bon moment pour arrêter. Et puis après l'année des Jeux, donc c'est l'année des Jeux, mais également l'année du Globe en France. C'est vrai que je me suis dit t'as quand même encore bien du jus, ça marche pas mal. Ouais. Donc fais-toi ce gros plaisir d'aller chercher des championnats du monde à la maison. C'est quand même une expérience unique dans une carrière. Alors moi j'ai eu la chance d'attaquer les championnats du monde en 2009 à Val d'Isère. C'était mes premiers championnats du monde.
Okay. Et c'est vrai, j'avais oublié cette information-là.
Voilà, et je finis sur des championnats du monde en France. Donc vraiment, trop fière de ça, d'avoir vécu cette expérience. Deux moments de ma carrière très différents. J'étais vraiment une athlète très différente. Hein. J'avais 19, 20 ans. Et puis là, 33 ans, quoi. Donc 20, 30, ouais. Donc c'était super particulier et puis en fait quand j'y réfléchis je me dis c'était exactement le scénario que j'avais envie de vivre et ouais ça m'a vraiment permis de quitter le monde du ski de façon tout à fait sereine et de m'être vraiment dit j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire dans ce milieu.
Ouais, et puis de terminer avec aussi un grand moment aussi de partage, donc bravo.
Ouais.
Bravo. C'est J'ai envie de parler un petit peu justement effectivement de peut-être de ton staff et de ton équipe.
Ouais.
Ils t'ont tous suivi tout du long sur cette carrière.
Alors non, ça a changé un petit peu au fil de ma carrière, hein, parce que 17 ans, 18 ans je crois, au plus haut niveau, c'est un peu long pour un staff. donc ouais, j'ai eu. Mais par contre, j'ai dû avoir 3-4 staff. Hein, en fait, ça, l'équipe fonctionne avec un chef de groupe. Avec des
techniciens du coup ou...
Non. Donc l'équipe fonctionne avec un chef de groupe et des entraîneurs. Ouais. Plus après il y a des techniciens. Moi j'ai eu la chance d'être suivie par ma marque de ski assez rapidement et d'avoir un technicien qui était en dehors du staff fédéral mais qui travaillait en lien direct avec ma marque de ski.
Ok. Donc dédié à toi.
Ouais, tout à fait. Okay. Donc parfois avec d'autres athlètes mais quand même. Quasiment à 100% avec moi sur une bonne partie de ma carrière.
Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu son rôle parce que c'est assez particulier,
oui.
C'est assez unique au monde du ski.
Ouais.
Quel est son objectif à cette personne-là ?
Alors son objectif va être de alors premièrement de préparer les skis exactement comme l'athlète a besoin qu'ils soient préparés. Donc il y a des petits détails, des petites choses qu'il peut adapter en fonction de l'athlète, en fonction de la neige, en fonction de plein de choses. Et
donc il va adapter le niveau de fart en dessous,
ouais, l'écart, beaucoup l'écart,
peut-être la tension sur les quand ils vissent les fixations ou ça c'est standard peut-être.
Ça va être assez ça va rarement changer mais parce que c'est souvent assez élevé mais par contre il va en fait c'est tout un travail en amont pour justement choisir le bon modèle de ski, le bon modèle de plaque de fixation, travailler aussi sur même parfois les chaussures, en fait tout le matériel qu'on a. On peut l'adapter à soi et vraiment avoir des choses très précises pour améliorer un petit peu ses sensations, sa performance, etc. Donc ça c'est un travail à faire un peu en association avec le technicien et c'est pour ça qu'il faut avoir une relation de confiance extrême et puis il faut vraiment communiquer beaucoup. Moi, à la fin, c'est vrai que mon technicien, il me connaissait par cœur et il me demandait même rarement ce que j'avais envie de prendre pour la course du lendemain parce qu'il savait mieux que moi, en fait. Il m'observait tout le temps à l'entraînement, tout le temps en compétition, donc il savait exactement quel type de ski, parce que le modèle change, la dureté change. Il y a tellement de choses qui changent que des fois même on peut se perdre là-dedans. Donc il faut aussi être un petit peu faut trouver un juste milieu comme dans tout et j'avais une super bonne relation avec mon technicien et on a réussi à trouver des super ajustements pour moi parce que c'est vrai que j'ai un gabarit aussi qui était pas forcément commun, plutôt petite, tonique, dynamique. Comme je le disais au début, plutôt agressive sur les skis que fluide. Donc, fallait aller dans mon point fort tout en essayant de compenser et trouver un petit peu de fluidité. Enfin, voilà, c'était hyper technique, mais super intéressant.
Et juste pour comprendre, avant une course, tu te déplaces avec combien de paires de skis et combien de paires de chaussures pour te laisser le choix, en fait le matin même, par exemple, ou la veille.
Ça, c'est mon technicien qui se déplaçait avec tout le matériel.
Ok.
C'est
lui qui gère aussi cette partie logistique.
Ouais, exactement. Et donc, lui, il se déplaçait avec, je sais pas, peut-être une dizaine de paires de skis.
Wow.
Mais qui étaient, les dernières paires de skis retenues parmi trentaine, quarantaine, quoi. Donc, voilà. Et puis après, il y a aussi les casses, les choses comme ça. Donc, il fallait un petit peu avoir du matériel au cas où. Mmh. Mais sur une journée de course, je me déplaçais avec, je dirais, 5 paires à peu près.
D'accord. Ouais.
Donc, voilà.
T'as une option pluie, t'as une option neige
Une option neige molle.
Ouais, on pouvait aller jusque là. On pouvait aller jusque là. Après, moi, je j'aimais bien connaître mon matériel et du coup adapter ma façon de skier plutôt. Donc parfois, même quasiment tout le temps, j'utilisais les mêmes paires de skis en fonction de la neige. Mais par contre, c'était plus moi, je m'adaptais un petit peu. Lui adaptait la préparation, donc peut-être mettre un peu moins de quart, plus de quart, le fart, etc. Mais voilà, au final, je me suis rendu compte dans ma carrière que j'aimais bien vraiment... un modèle garder, de ski bien particulier, garder une référence et puis plus moi m'adapter en fait.
Ok, d'accord. Et du coup, les autres paires de ski, elles servent à, je sais pas, à l'échauffement, à d'autres, à pour faire des d'autres choses.
Ouais, il y avait tout ce qui était échauffement, tout ce qui était reconnaissance, déplacement en fait sur les pistes aussi, une paire de ski qui était pour cet usage-là. Et après, je skiais une descente avec chaque paire de ski parce que le travail est tellement fin. Tellement précis que au bout d'une descente, la précision a été déjà moins bonne. Donc, hop, on reprenait une autre paire de skis avec tout autant de précision qui sortait du local à ski. Et on savait que c'était nickel. Voilà, le petit pierre, le petit truc qui pouvait un peu abîmer, on était sûr de ce que je mettais au pied. Donc, c'était vraiment une paire par descente. Okay. Ouais, ça peut paraître extrême, mais ça allait à ce point-là dans le détail, quoi.
Ouais, mais après, c'est un niveau de précision qu'il faut avoir et qui est sur plein de sports. Ok, désolé, j'ai approfondi la question.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sur effectivement la préparation
le
des
matériel
skis.
Ouais, c'est
parce que des fois on devine pas à quel point la performance elle va aussi loin et souvent par le biais du matériel on comprend à quel point on cherche vraiment à optimiser.
Puis aussi qu'elle dépend énormément d'autres personnes, quoi. Enfin, c'est vrai que moi j'avais totalement conscience que sans ski aussi bien préparé, sans les soins kinés de la veille ou même les mises en place d'entraînement qui pouvaient m'être faites pour arriver sur la course en confiance, c'était compliqué pour moi de performer, quoi. Donc voilà, l'un sans l'autre ne fonctionnait pas à 100%.
Ok, ça marche. Du coup, dans ta team, donc on a vu effectivement la personne qui s'occupe de vraiment toute cette partie technique. Ouais. En plus, tu as mentionné que tu avais un kiné, souvent en déplacement avec toi.
Ouais, le kiné de l'équipe de France qui s'occupe de tout le groupe. Okay. Qui changeait un petit peu parfois parce que c'est des kinés qui ont aussi leur vie à côté et qui en fait se déplacent par passion. Parce qu'ils aiment notre sport et qu'ils aiment s'occuper de sportifs en général. Donc c'est vrai que c'est chapeau à eux parce que c'est pas forcément évident de se déplacer, de quitter leur travail ou enfin voilà, c'est pas forcément, c'est vraiment par passion. Okay. Donc ça c'était chouette aussi.
On dit souvent chez les athlètes que la personne qui nous connaît le mieux c'est le masseur ou le kiné parce qu'on se dévoile particulièrement à ces moments-là. C'était vrai.
Oui, je pense. Ouais, je me suis liée d'amitié avec tout au long de ma carrière avec mes kinés et puis en effet, je pense que c'est un sas de décompression, le petit moment, la petite séance qu'on peut avoir avec la kiné ou le kiné. Et puis, il connaît tous nos petits pépins physiques, mentaux aussi parfois. Moi j'aimais bien entretenir. Je suis quelqu'un qui aime le contact humain, qui aime le partage, et du coup, avec mon staff en général, c'est vrai que j'aimais bien avoir des relations professionnelles, mais aussi de belles relations à côté, humaines, et puis vraiment pouvoir partager les bons comme les moins bons moments à fond, quoi.
Ok. Donc on a vu effectivement donc technique, kiné, y a l'entraîneur de l'équipe de France aussi, j'imagine.
Les entraîneurs, ouais, bien sûr.
J'ai pas bien fait mes devoirs à ce niveau-là. T'as eu un entraîneur à titre perso, toi?
Non.
Jamais.
Non, jamais d'entraîneur à titre perso. Comme je disais, c'est souvent des cycles avec un entraîneur en chef et puis des entraîneurs pas assistants, parce que je trouve que chacun a un rôle très important. Mais voilà, souvent ils étaient trois, voire peut-être quatre. Et puis
toute l'équipe de France féminine et masculine.
Non. Alors que pour l'équipe de France féminine et souvent spécialisée en fonction de la discipline. Donc il y avait la technique et la vitesse.
D'accord.
Donc voilà, moi c'était des staffs qui ont évolué au fur et à mesure de ma carrière, parce que voilà, quand on est jeune, c'est vrai que j'ai eu mon premier staff en équipe de France. Qui a eu toute son importance aussi, parce que c'est aussi là que le développement se fait, etc. Après, ça a un petit peu changé, parce que j'ai aussi été dans des groupes plus élevés. Donc je suis rentrée après le groupe junior, on est allé sur la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. Et donc le staff change un petit peu. Voilà, mais j'ai toujours eu... des coachs qui m'ont beaucoup aidé à évoluer. J'ai pas mal évolué aux côtés de chacun de mes staffs, et puis qui ont beaucoup été à l'écoute. Et ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que parfois ça peut pas forcément bien se passer sur le plan humain. Et on n'a pas forcément le choix. C'est le staff de l'équipe de France, donc faut s'adapter un peu à ça. Mais moi je considère que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance et voilà.
Il y a une question que j'aime bien poser, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu vois, qui sont dans les filières de performance qui nous écoutent, viennent un peu écouter les grands champions, les grandes championnes et leur prendre quelques secrets. Est-ce que toi, vu qu'on parlait un petit peu des entraîneurs, de l'entraînement et tout, il y a un conseil que t'aurais aimé mettre en place plus tôt, ou peut-être que tu aurais fait différemment, tout simplement, avec le recul, et que tu as dû changer en cours de carrière?
Alors, j'ai beaucoup évolué en cours de carrière. Et en même temps, ça fait partie de...
C'est normal.
Voilà, de mon apprentissage et tout. Donc, c'est vrai qu'à la fin, j'étais peut-être plus consciente de certaines choses. Je sais pas, j'ai vécu mes dernières années vraiment avec beaucoup beaucoup de plaisir dans ma discipline, dans mon sport, peut-être moins de pression aussi sur mes objectifs. Et puis les relations avec mon staff aussi, plus consciente de cette relation, du coup peut-être plus... Ouais, je sais pas, j'avais vraiment... quand on est jeune, on se rend pas compte de tout le boulot qui est fait, un petit peu... C'est vrai que, voilà, on est jeune, on fait ce qu'on nous dit de faire, et puis c'est l'insouciance, en fait, tout simplement. Et c'est aussi une qualité, c'est aussi quelque chose sur lequel je me suis appuyée sur mes premières années et qui m'a aidée à performer sur quelques courses. Mais à la fin, c'est vrai que ouais, j'étais un petit peu plus... Ouais, au fait de ça, même parfois je partageais un peu plus avec les entraîneurs, on discutait beaucoup plus des tactiques d'entraînement, tout ça. Donc c'est super intéressant, mais je l'aurais pas fait plus jeune. Enfin voilà, c'était juste l'évolution normale des choses. Franchement, j'aurais pas fait grand-chose différemment. Après, j'ai eu des années un peu compliquées comme beaucoup beaucoup de sportifs, mais c'est vraiment pas des choses que je regrette ou que j'aurais envie d'effacer de ma carrière, parce que je sais à quel point elles ont été importantes dans mon évolution et dans mes victoires après, quoi.
Ouais, bien sûr. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que toi tu faisais que tes concurrentes ne faisaient pas? Ou que t'allais faire différemment d'eux, tu vois.
Ouais.
Tu vois, j'aime bien demander, c'était quoi ta petite recette magique ou ton unfair advantage, tu vois, comme disent un peu les anglo-saxons. Et j'avais très envie de te poser cette question-là, tu vois.
Ouais. Alors, j'ai un petit peu réfléchi, parce que du coup, tu m'avais un peu donné la question avant, mais c'est vachement dur, je trouve, parce que je faisais pas trop attention à mes adversaires. Enfin, j'essayais vraiment de rester focalisée sur moi. Je pense que c'était dans notre type de sport où on n'a pas un duel direct. Je pense que c'est assez important de vraiment se focaliser sur soi. C'est aussi ce qui m'a permis de... d'être à mon meilleur niveau toutes ces saisons, c'est vraiment d'être concentré sur moi, ma performance, ma façon de skier, ma technique, ma progression. Après, je suis quelqu'un, on a parlé de mon côté scolaire à l'école, j'aime beaucoup analyser les choses, et je pense que ça, c'est quelque chose peut-être pas tout le monde ne fait. Moi, c'est vrai que... Alors, parfois, ça pouvait être négatif parce que de trop réfléchir, de trop être dans la réflexion, c'est pas forcément hyper bon pour la performance sportive. Faut aussi qu'il y a un petit peu de lâcher prise et tout ça. Et donc, c'est un peu là-dessus que je travaillais mentalement. Et j'ai réussi à trouver une bonne balance, je pense. Mais ouais, moi, c'est vraiment... l'analyse de ce que je faisais un petit peu au quotidien, me dire ok, ah bah ça, j'ai fait ça comme ça, et puis une analyse très, enfin, alors j'étais pas contente après une course ratée, mais une fois que l'émotion était passée, j'arrivais à être assez assez objective et à me dire ok, bon ben, qu'est-ce qui s'est moins bien passé, pourquoi, etc. Donc je pense que ça, c'était un de mes points forts, arriver à analyser et à corriger, et le lendemain à rebondir, à faire différemment, à mettre en place des choses nouvelles. Okay. Voilà quoi.
Tu le faisais quotidiennement?
Ouais.
Ok.
Quasiment, ouais. Ouais, ouais.
Tu t'as ritualisé un peu cette partie-là de...
Oui, c'est vrai que même à l'entraînement, j'aimais bien me fixer des petits objectifs dans la journée, et puis à la fin, réussi, pas réussi, pourquoi, tout en restant vachement dans le côté positif. Je suis quelqu'un de très positif et toujours essayer de dire ok, ça a bien marché, ça a bien marché, ça a bien marché. Vraiment tirer le positif beaucoup, mais tout le temps dans l'analyse, ouais.
Ok.
Vachement.
Ok, ok. T'avais un carnet, du coup, j'imagine.
Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein.
On trouvait quoi dedans, du coup ?
Beaucoup de choses techniques, parce que en fait j'aimais bien comprendre le geste technique du ski, l'efficacité, où trouver l'efficacité dans le geste, parce que voilà, c'est un sport très très technique.
Donc c'est quoi ? Tu décris tes sensations ? Tu décris tu dessines, tu fais des...
Ouais, des schémas parfois, ça pouvait arriver. Je décrivais mes sensations, mais aussi on parlait de mantra, tu sais, pour se mettre dans l'état, dans le bon état au départ d'une course. Je m'écrivais mes petits mantras aussi. Me dire, ah bah aujourd'hui, j'ai vachement pensé à ça et ça a marché. En début d'entraînement, je me suis focalisée sur tel truc technique et en fait, non, c'est pas par là qu'il fallait passer. Il fallait d'abord faire autre chose. Enfin, voilà, j'écrivais un petit peu tout ça. J'écrivais aussi mon état d'esprit. Comment j'étais, si j'étais dans le dur, si au contraire c'était une super journée, j'avais le smile toute la journée, si j'ai pris du plaisir, enfin voilà, ça peut être très très varié. Mes carnets, ils sont un peu, ça fait un peu plus carnet de brouillon, mais faut que je me replonge dedans, ça peut être intéressant.
Ouais, moi j'aime bien essayer de tous les jours de noter un peu mon niveau de bonheur,
ouais,
et d'écrire un petit peu à côté. Et je sais que je suis, enfin il y a des vraies techniques de bullet journal, tu vois,
ouais,
où tu peux essayer de traquer sur un mois,
ouais, ouais, ouais.
Les gens que t'as vus, tu vois, et tu peux te rendre compte que tiens, quand je vois cette personne, je suis plus heureux. Ou
ouais, c'est vrai.
Tiens, aujourd'hui, je m'y suis tiré, je me sens mieux dans mon corps.
Ouais, exactement.
Et il y a des vraies techniques. J'ai oublié le nom du livre. C'est ma petite amie qui me l'a donné. J'ai toujours pas lu, mais qui s'appelle Comment tenir un carnet en fait.
D'accord.
Il y a plein de stratégies dedans,
okay,
pour
voilà.
que en fait tous les mois ça soit hyper utile. C'est pas facile. Hein. C'est...
Non, faut mais... un peu de rigueur. Faut aimer ça aussi parce que.
Il faut écrire déjà avant tout.
Ouais, faut aimer ça. Faut écrire. Et puis ben, c'est vrai que ça demande quand même ouais une grosse rigueur tous les jours, mettre son petit mot, passer 5-10 minutes. Mais finalement, c'était aussi une forme de routine. Je me suis rendu compte après et que ça me permettait de me poser, de travailler un petit peu sur le mental, sur plein de trucs. Et je pense que ça m'a aidé tout au long de ma carrière à avoir un appui, enfin quelque okay. chose qui m'aide au quotidien quoi. Donc
okay. J'ai vu dans un reportage que tu avais une liste en faisant tes affaires. Une énorme liste, genre ouais. dans ton carnet, et effectivement, je pense que c'est une page A4, et il y a deux colonnes remplies.
Ah ouais?
Et tu barres,
Ah, ça, okay. c'était pour un gros voyage, genre aller en Chine ou aux États-Unis ou un truc comme ça.
Ouais, peut-être. Je crois, ou à Ushuaïa, ou je crois.
Ah, peut-être Ushuaïa, ouais.
Effectivement, c'est un gros voyage, c'est un gros stage, vous avez 3 semaines, et tu dis que, bah, effectivement, t'as envie de tout prendre, parce que 3 semaines, t'as envie d'être un peu confortable. Ouais. Du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est quoi la chose la plus inattendue que tu pouvais avoir dans ta liste de voyage ou... Peut-être que la chose que tes adversaires n'avaient pas.
Alors, j'ai des trucs très ridicules, très inattendus en effet. Par exemple, justement, pour mon petit confort, notre petit confort, parce qu'on était souvent en chambre double, j'aimais bien prendre une petite bouilloire, j'aimais bien, on avait même à un moment donné, parce que avec notre préparateur physique, on avait suivi pas un régime alimentaire, mais on faisait attention à l'alimentation. Et notamment des déplacements comme Ushuaïa, par exemple, on sait que la nourriture pas la même qualité, on va pas nous proposer les mêmes choses. Enfin, souvent c'est difficile de sur un mois de pas avoir trop de carences et tout, et puis d'avoir les bonnes énergies le matin au petit déj. Donc, on avait même embarqué une fois une machine pour faire cuire les œufs.
Ok.
C'est vrai. Donc les trucs pour faire cuire les œufs à la coque ou les œufs durs. Enfin bon, bref, parce qu'on savait que la cuisine, le restaurant ne proposait pas. Par exemple, le petit déj idéal le matin. Donc, on faisait notre petit déj dans notre chambre, en fait. Après, plus personnellement, j'avais pas. Bon, j'avais mes carnets, j'avais mes petites boules, un peu de massage, des petits trucs pour la récup. Voilà. Plus les années passent et plus le sac grandit, parce que j'avais une bouillotte aussi, parce que j'avais des fois des problèmes de dos. Enfin bon, bref, c'est après, on essaye d'avoir tout au cas où.
Ouais.
Donc du coup ça devient
la liste s'allonge avec le temps quoi.
Les coachs nous disaient c'est bon, t'as pris ta maison, ouais, c'était un peu ça quoi. Parce que c'est eux souvent qui devaient on chargeait dans le bus et puis le bus était plein à craquer et voilà, mais bon ouais. C'était aussi c'est quand on se déplace autant et que on a envie de se sentir bien, c'est vrai que des fois il y a des petites choses, c'est important.
Et est-ce que tu programmes justement, j'imagine, quand tu fais ta liste de voyage, que peut-être quand tu vas à Ushuaïa, c'est pas comme si tu allais à New York ou à Paris, quoi. Enfin, t'as pas un supermarché avec tout. Donc, j'imagine même pour la partie électronique, il y a plein de choses que tu trouves pas aussi. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que vous prenez en compte, quoi.
Ouais, clairement.
Il n'y aura pas de solution de secours sur place, quoi.
Non, c'est ça. Ushuaïa ou même les États-Unis, c'était beaucoup la pharmacie aussi, parce que on trouve pas du tout les mêmes médicaments en France ou en Amérique du Nord ou du Sud, quoi. Donc, fallait vraiment anticiper en cas de problème. C'était la nourriture, comme je disais. Donc, parfois, on prenait un peu des aliments. Je me souviens, j'avais une coéquipière qui avait pris de la moutarde de Dijon parce que parce que il y avait pas impossible de trouver de la moutarde là-bas et on aimait bien
la moutarde américaine au vinaigre là.
Ouais, voilà, et on aimait bien faire nos petites vinaigrettes moutarde de Dijon et tout parce que souvent on pouvait se faire à manger ou des trucs comme ça. Et malheureusement le pot avait explosé dans le sac pendant le voyage. Donc toutes les affaires de ski pleines de moutarde, enfin bon. C'était c'était que des trucs comme ça. En fait, on amenait notre petit confort avec nous et puis parfois ça allait très loin. C'était vraiment quand on part 3 semaines, ouais, il faut quand même
Attends, donc on a eu le pot de moutarde, la machine à œufs, c'est très orienté nourriture quand même.
Oui, c'est vrai. Ouais, j'aime quand même bien la nourriture. Faut se le dire.
Il y avait une petite tablette de chocolat aussi.
Par exemple, ouais, en Argentine, le chocolat n'a pas du tout le même goût.
Ouais.
Donc non, c'était ouais, il y a des petits trucs comme ça. Et puis en fait, j'y suis allée toute ma carrière. Donc au fur et à mesure des années, on se fait notre petite liste. On se dit ne pas oublier de prendre tel et tel truc parce que là-bas il y a pas.
Ouais.
Donc voilà, c'était rigolo.
Ok, hyper intéressant. vu qu'on parle nourriture, c'est un gros sujet dans le monde du ski, l'alimentation. Tu vois, cet après-midi, je m'apprête à rencontrer un cycliste, tu vois, c'est une obsession. Donc on va sûrement en discuter un peu, mais pour toi, est-ce que justement le rapport poids-puissance, c'est quelque chose quand même que vous maîtrisez beaucoup ? Donc, à quel point toi, t'étais libéré ou pas par rapport à ça ?
Alors, c'est pas vraiment un sujet dans le ski. Enfin voilà, on fait un sport de gravité, donc c'est. Enfin, je pense que ça a évolué par rapport à l'époque où, bon, il y a plusieurs dizaines d'années où vraiment c'était les athlètes les plus lourdes qui étaient les plus performantes. Ça a totalement changé, clairement. Ouais. Mais on fait pas non plus vraiment attention à tout ça. Moi, j'y faisais attention plus. C'était plus un choix personnel parce que, en fait, quand on commence à faire, à aller dans le détail techniquement, physiquement, mentalement, et qu'on mange un peu n'importe quoi, on se dit c'est dommage de faire tout ce travail-là, à pousser autant le détail et aller dans la précision, et puis finalement, sur la nourriture, pas non plus aller là-dedans, quoi, pas non plus y travailler. Donc moi j'étais intéressée par ce domaine-là parce que en fait c'était mon carburant, c'était aussi les saisons sont longues quand même, donc tenir la fatigue tout au long de la saison, et puis simplement avoir de la bonne énergie musculairement pour les contraintes que pouvait apporter le ski. On a des manches qui peuvent durer entre 1 minute et parfois 1 minute 30 sur de la vitesse. Ouais, 1 minute 40 des fois. Donc ça peut être très lactique, ça peut être très... Voilà, à la fin de la manche, on peut vraiment perdre en qualité, en lucidité, en énergie. Donc je trouvais que c'est super important d'avoir le bon...
Mon carburant,
la bonne énergie, ouais.
Ouais, puis ça joue beaucoup sur ton mental aussi, tu vois, de garder une alimentation à peu près équilibrée et saine.
Ouais.
Tu te souviens de ce film Super Size Me, du monsieur qui mange McDo tous les jours pendant un mois.
Bien sûr.
Beaucoup de gens, si tu veux, ont fixé leur attention sur effectivement son état physique qui s'est complètement dégradé.
Ouais.
Mais moi, ce qui m'avait le plus marqué, c'était son état psychologique, quoi.
Ouais, il est
à la fin
dépendant.
Du mois, il est dépendant, il se sent pas bien.
Ouais, il est déprimé.
Il dit qu'il est nerveux, qu'il est déprimé et tout. Donc, moi, c'est ça qui m'avait beaucoup marqué, c'était de me dire, waouh, en fait, ce que tu manges, ça a aussi quand même un gros impact sur ton bonheur, ta joie.
Ouais, c'est sûr.
Donc c'est aussi un critère à prendre en compte.
Au quotidien, ouais, c'est clair.
Okay. Je voulais aborder un dernier sujet quand même avec toi. Parce que je l'ai abordé assez souvent avec des skieurs et des skieuses. Je t'ai pas piégé, je te l'ai dit. C'était Antoine et Tess notamment, on a abordé un peu ce sujet.
Ouais.
Et forcément, c'était un peu le sujet de l'appréhension et de la peur.
Ouais.
Celui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'était Antoine.
Ouais.
Par rapport à ça, parce que effectivement, après son grand titre, je crois que c'est l'année d'après. Je crois une des premières courses de l'année d'après.
Ouais.
quelque chose comme ça.
Il y a une grosse chute.
Il fait une très grosse chute. Ouais. Il se fait peur. Ouais. Et il le cache pas. Hein, et il m'a avoué que, je pense qu'il est assez à l'aise avec ça maintenant, que cette petite peur-là, elle est jamais partie, et qu'il a jamais réussi à revenir à son plus haut niveau, et qu'à chaque fois qu'il rechaussait les skis, il avait cette espèce de petite boule au ventre, qui le guidait et qui l'empêchait d'être à son plein potentiel.
Ouais, bien sûr.
Quand j'ai rencontré Tess, c'est un peu, j'ai un peu l'impression, l'inverse, quoi. Elle se relève à une vitesse hallucinante. Là, aux Jeux Olympiques, pareil, elle a fait une grosse chute, je crois, sur une des épreuves, et tout de suite après, elle y va et elle va aller chercher une médaille. Donc j'ai l'impression que c'est un sujet quand même. Le rapport à ça, le rapport à la peur. Je vais poser la question de manière très ouverte, pas forcément très facile. Quelle est ta relation, toi, avec cette peur?
Je la ressens, je l'ai ressenti. La peur, c'est vrai que ça fait partie, je pense, de notre sport. Après, il y a des choses qu'on peut vivre comme Antoine, par exemple, qui peuvent aller un petit peu au-delà de nos limites et du coup, ça peut être plus compliqué à gérer. J'ai eu quelques petits accidents, mais rarement des choses qui m'ont vraiment paralysée et qui m'ont laissé des traces importantes mentalement. Mais par contre, notamment sur la vitesse, la discipline de la vitesse qui faisait partie de mes disciplines, la peur a toujours été bien présente. Et justement, c'est un petit peu le frein. Enfin, ça a été un petit peu, pas un frein, mais disons un facteur important à gérer pour être performante. Donc, il fallait vraiment que je passe par énormément d'étapes pour me mettre en confiance, diminuer cette peur. En fait, il fallait que je sois consciente que j'étais capable de maîtriser les vitesses, les sauts, que j'avais suffisamment de puissance, de force pour en fait contrôler un petit peu ce que je faisais. Même si sur une manche, si on est trop dans le contrôle, on n'est pas assez performant. Mais voilà, pour la vitesse, il fallait quand même que j'arrive à me dire ok, c'est bon, tu maîtrises. Donc c'est vrai que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup de répétitions. Souvent quand je faisais pas de vitesse pendant plusieurs mois, la reprise était je repartais un petit peu, pas de zéro, mais toujours fallait que je repasse certaines étapes que j'avais déjà passées depuis longtemps, et j'étais beaucoup plus lente dans ma progression en vitesse qu'en technique, parce qu'il y avait la peur, parce qu'il y avait ce petit côté appréhension. C'est vrai que c'était peut-être plus de l'appréhension.
Je mettais ça dans les notes, c'est le mot appréhension qui revient souvent.
En tout cas, moi, dans mon cas, c'était plus ça, parce que je pense que j'ai pas eu d'expérience vraiment qui m'ont traumatisé. Mais c'est vrai que des départs, on part avec le frein à main, parce qu'on se dit je sais pas du tout comment je vais arriver, à quelle vitesse, la discipline de la vitesse, c'est très impressionnant. Mais pourtant, ça me donnait vachement envie d'y aller, d'essayer, de progresser. J'avais trop envie d'aller chercher cette petite adrénaline en plus. Cette discipline, elle m'attirait beaucoup, et je suis très contente de jusqu'où j'ai pu aller dans cette discipline.
T'étais accro un peu à cette sensation d'adrénaline?
Je pense qu'on peut être un petit peu ça peut être une petite forme d'addiction, de se dire quand on a passé un cap, justement, quand on a fait tout le, enfin en tout cas pour moi, tout le processus de mise en confiance, quand on se sent bien, qu'on contrôle quasiment toute la situation et tout, on peut vraiment avoir des super c'est d'ailleurs très souvent l'état d'esprit que j'arrivais en bas d'un entraînement officiel ou d'un truc comme ça, où j'y allais un petit peu pas à reculons, mais j'y allais vraiment en maîtrise. J'arrivais en bas, je me disais waouh, mais c'était génial, en fait j'ai envie de refaire tout de suite, et j'ai envie d'aller plus vite. Donc voilà, c'était un petit peu ça le... Et ouais, en vitesse, je pense que c'est très très présent. Après, test, c'est encore autre chose. Hein. C'est vrai que là, c'est ouais. C'est très différent. Ouais, mon chapeau parce que.
T'aurais pu faire ce qu'elle fait.
Non, honnêtement, enfin, j'en sais rien en fait, mais je pense que déjà, faut être très jeune pour se familiariser à ce sport, à cette discipline et tout ça. Parce que plus âgé, on a trop conscience de plein de trucs et du coup, on a du mal à passer ses limites. Ouais, non, je suis pas sûre que tout ce qui est freestyle, je pense que ça correspond peut-être moins à mon caractère. Je disais, je suis très, voilà, très rigoureuse, technique. Alors, il en faut hein, pour faire du freestyle, mais il faut aussi beaucoup de créativité.
Ouais, c'est vrai. Okay.
Et beaucoup laisser place à peut-être son imagination ou son instinct. Et plus qu'en ski alpin, peut-être. Je sais
pas. Ok. J'ai pas idée non plus.
Mais Tess, en effet, est très rigoureuse, très travailleuse, très. Enfin voilà, moi j'ai travaillé avec elle et c'est vrai que ça fait partie des athlètes qui sont. Ouais, en effet.
Vous avez bossé quoi ensemble d'ailleurs ?
On a travaillé le physique. On était avec le même préparateur physique pendant plusieurs années. Et c'était génial en fait de mixer les disciplines comme ça. Et de faire le travail de fond ensemble, c'était super intéressant. Et puis, ça a aussi étoffé un petit peu notre groupe et le sien, je pense.
Ouais.
Et puis les échanges qui étaient hyper importants de discipline en discipline, les expériences aussi, parce qu'elle a vécu de sacrées expériences justement. Elle a déjà gagné plein de titres, plein de belles choses. Donc voilà, c'était super.
Bah écoute, ouais, elle a parlé beaucoup de toi en bien dans l'interview et notamment sur le sujet un peu des rôles modèles parce que je pense que elle est tellement jeune et tellement pionnière dans ce qu'elle fait que
on oublie parce qu'elle est là depuis tellement longtemps, mais elle est très très jeune.
C'est ça, ça. Je crois que ses premiers X Games, elle doit avoir 17 ans ou 18
ans.
Ouais,
même pas.
Donc même pas. Je crois que c'est encore plus tôt que ça. Je dis peut-être des bêtises. Et donc, c'est pas facile, je pense, quand t'as cet âge-là, de te dire, ok, mais en fait, vers qui je me tourne pour demander des conseils, en fait, tu vois. Et je sais qu'elle en avait beaucoup parlé, beaucoup apprécié. Puis en plus, elle est dans un milieu où il y a quand même beaucoup de garçons.
Voilà,
donc,
ouais. <C'est> pas... Je pense qu'elle est bien entourée, mais c'est vrai que oui, en effet, elle fait un sport, pour le coup, où il n'y a pas cette idée de groupe, en tout cas féminin. Qu'en alpin on peut avoir depuis le début de notre carrière, c'est vrai qu'on est entouré de filles de notre âge, on évolue tout ensemble, on a ce côté groupe. Enfin moi en tout cas je sais que j'ai vécu avec un groupe toute ma carrière et il a une importance primordiale. Moi j'adore m'entraîner aux côtés de filles, aux côtés de garçons aussi, mais je veux dire d'avoir cette émulation de groupe, cette énergie de groupe, c'était quelque chose de très très important pour moi. Je me serais pas vue me mettre en team privée, enfin en team avoir mon truc à moi, mon staff et m'entraîner toute seule. Moi j'ai besoin de l'énergie aussi un petit peu des autres et puis du côté convivial aussi la vie à côté quoi.
Et est-ce que c'est important que ça soit des femmes dans ce groupe ?
Bah de toute façon les athlètes c'était enfin
pour vous oui.
Voilà, c'était même pas une question. Le staff il y avait des kinés parfois mais on a rarement une femme dans le staff. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu aujourd'hui peut-être un petit manque de modernité parce que aujourd'hui c'est vrai qu'on y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là, puis les femmes font partie aujourd'hui du monde du sport. Nous dans le ski c'est pas encore tout à fait le cas. C'est pas quelque chose qui m'a manqué parce que je pense que j'ai vécu comme ça toute ma carrière et puis j'ai eu l'habitude de côtoyer des hommes en tant que coach. Mais bon, comme je disais, on avait nos coéquipières, enfin voilà, les copines du groupe en fait, qui il y avait déjà ce côté féminin, mais.
Bah, tu vois, non, mais je te posais la question parce qu'elle est là. Enfin, quand on parlait de Tess, tu vois, bah, ouais. Elle s'entraîne avec beaucoup de gars ouais.
Plus âgés, en plus parfois. Mmh. Ouais, non, c'est sûr, ça.
Dans un milieu un peu rock aussi, où il y a un peu de. C'est un peu moins conventionnel que le ski alpin.
C'est sûr, exactement. Je pense qu'il y a des super bons trucs, enfin des trucs super positifs à prendre.
Bien sûr.
Et puis, ben, comme tout, il faut un équilibre. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je pense qu'elle a aussi besoin de côtoyer un peu plus de femmes sportives ou pas. Enfin, voilà. Ouais. C'est comme tout dans la vie, c'est un équilibre.
Ouais, bien sûr, non, effectivement, il faut que l'équilibre se trouve. Je pense que les choses sont en train de changer. Mais ça me paraît, tu vois, moi je suis très conscient des causes un peu féministes et de l'égalité homme-femme, tu vois. Et je me pose souvent la question. Et c'est vrai que, tu vois, bon, là on a eu la Coupe du Monde de football, par exemple, féminine. Bah, quand je vois qu'il y a une grosse partie du staff qui est masculin, je me dis qu'il y a un truc qui cloche, tu vois.
Ouais.
Et en même temps, je me dis que dans l'équipe masculine, avoir peut-être 2-3 femmes, ça ferait pas de mal. Mais que si on a... Mais aussi, tu te dis, bon, si on a que 2-3...
Ouais, c'est dur aussi pour elle.
Et que tout le groupe, et que t'as tout le groupe, et que... Non, mais c'est vrai, tu vois.
Non,
tu
mais c'est des vraies problématiques. Hein,
t'imagines les footballeurs, enfin, j'espère qu'ils font attention à ce qu'ils disent, mais bon, on les connaît.
Pas sûr.
Tu vois, 3 semaines, 1 mois en groupe, tu vois, ça déconne. Enfin, bref... Enfin, bref, donc c'est quand même des sujets importants, je trouve.
Ouais, le milieu du sport est peut-être pas forcément évident
pour
la femme encore. Ouais. Mais pas en tant qu'athlète, ouais, plus en tant que. Le métier, quoi.
Ouais, bien sûr.
Moi, on me demande aussi, on m'a déjà demandé est-ce que t'auras envie d'entraîner et tout ça. C'est difficile hein, comme métier. On part souvent de la maison. C'est le même rythme qu'un athlète quasiment, avec même des horaires, enfin des obligations même encore plus contraignantes parce que faut tout mettre en place avant, faut l'organisation, la logistique, les heures de bus. Hein. Ouais, c'est quand même très lourd comme travail. Et moi, si on me demande, c'est vrai que je dis, aujourd'hui, non, pas forcément. C'est pas, en tout cas, pas tout de suite, quoi.
Ouais.
Donc, je peux comprendre aussi. Ouais, c'est difficile, quoi. Je sais pas. Honnêtement, une problématique, mais.
Okay.
Mais je suis pas encore là-dedans. J'étais encore dans les athlètes, donc j'avais moins ce questionnement. Ce questionnement-là, mais s'entraîner avec des gars, c'était quelque chose que j'aimais bien.
Ok.
En tout cas.
T'as parlé un petit peu de la suite. Est-ce qu'on peut dévoiler, aborder les projets qui t'attendent pour les prochains mois, les prochaines années ?
Projet, j'ai pas forcément de projet bien défini. Je voulais surtout me laisser beaucoup de temps, enfin beaucoup. C'est une façon de parler parce que j'ai pas tellement déterminé ce temps-là, mais j'avais besoin déjà de respirer après toutes ces années de carrière à haut niveau, enfin qui étaient très intenses. Besoin de respirer un peu, découvrir aussi la vie normale, parce que c'est vrai que là, c'est le premier été où je me laisse un peu guider par, qu'est-ce que je vais faire dans ma journée, je sais pas trop. C'était toujours au rythme de mes entraînements et tout ça, donc là, finalement, je peux faire des choses, j'ai plus de temps pour faire des choses que j'avais jamais vraiment faites avant.
Comme quoi ?
Déjà passer du temps avec ses amis, mes proches, la famille, profiter aussi de l'été. Tout simplement, faire des activités l'été. C'est vrai qu'on partait un mois en Argentine skier, donc c'était tout de suite l'hiver. Donc l'été était bien raccourci très souvent. Juste ces petites choses assez simples. Et puis, j'aimerais bien quand même garder un pied dans le milieu du ski parce que c'est quand même un monde qui, c'est un petit milieu, mais que j'adore. Donc je vais rester un petit peu, pas très loin, j'espère. Rien de concret encore, mais j'espère être un petit peu par là l'hiver prochain. Et puis, sinon, non, j'ai une réflexion un petit peu sur sur du plus long terme, sur un projet à plus long terme. Voilà, je fais un bilan de compétences, j'essaye un petit peu. Donc, j'ai toute ma carrière été accompagnée par l'armée de terre. Donc, je suis encore militaire. Donc, voir aussi avec l'armée de terre ce qui m'est possible de faire après carrière. Voilà, c'est un petit peu une réflexion. Je pense qu'il faut prendre le temps d'être bien, enfin de bien,
ouais, bien sûr.
De bien choisir, bien poser les choses et bien faire les bons choix.
Ouais, bien sûr. Et puis c'est aussi une période, tu sais, un peu pour tester beaucoup de choses.
Oui.
Parce que, bah d'ailleurs, tiens, c'est un test que je te recommande. Écoute, si tu fais des tests, des bilans de compétences et tout ça,
ouais.
C'est le test des intelligences et des natures multiples.
Oula, d'accord.
Alors, si tu veux, ça part du constat. Alors, j'ai oublié le scientifique qui fait ça, mais je pense que ça, la théorie va te parler. C'est la personne qui a essayé de démonter le plus le quotient intellectuel, le QI,
ouais.
En disant non, le quotient intellectuel ne reflète pas du tout l'intelligence.
Ouais.
Et il existe d'autres formes d'intelligence, l'intelligence corporelle fine, l'intelligence corporelle globale, l'intelligence naturaliste, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, linguistique, organisationnelle, visuelle. Enfin, tu vois,
il y a plein. Ouais.
Voilà, et il y en a 10 en tout.
Ah, oui.
Et si tu veux, un des constats qu'il fait, c'est que beaucoup de gens, notamment dans les filières de performance, pas forcément dans le monde du sport, mais ça peut être artistique ou qui vont être sur un métier très pointu, ils vont développer certaines intelligences, vont peut-être laisser mettre de côté d'autres.
Bien sûr.
Que il est hyper important de, au moment où on tourne un peu une page, d'essayer de redécouvrir un peu ces autres intelligences. Et en fait, il les relie avec, du coup, il y a d'un côté les intelligences, de l'autre côté, il y a les natures. Et les natures, c'est, est-ce que t'es plutôt protectrice, est-ce que t'es plutôt manager, est-ce que t'es plutôt organisatrice, est-ce que t'es plutôt, tu vois, un petit peu les différentes natures. Et en fait, en fonction de tes natures et de tes intelligences, bah, il te donne des idées de choses à faire qui pourraient te plaire.
Ah, ok. Vois. Ah ouais, ça m'intéresse. Ouais.
Et d'activités, tu vois. D'activités concrètes, donc d'activités professionnelles, d'activités beaucoup plus fun.
Ouais.
Et du coup, voilà, tu vois. Et je te donne un exemple très concret. Le dentiste et le peintre, ils ont tous les deux une intelligence, une minutie très fine, tu vois.
Ouais, ouais, d'accord.
Mais il y en a un qui va être plutôt protecteur et l'autre qui est plutôt créateur.
Ok, ok. Ouais.
Donc, tu vois un peu comment tu peux.
Ouais, de comment peut-être tu trouver peux mon futur métier comme ça.
Ouais. Non, mais je pense que c'est sous-estimé dans les tests de reconversion ou de réflexion par rapport à ça.
Ouais.
Mais je me fais pas de soucis pour toi, donc je suis sûr que ça va bien se passer. Il y a un autre métier qui t'aurait fait rêver t'aurais voulu faire.
En fait, oui, j'avais des petites idées quand j'étais plus jeune. Moi, j'aime beaucoup la transmission et le partage. Donc, c'est rigolo. Quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école, par exemple. C'est des petits trucs comme ça, mais j'avais pas vraiment une conviction profonde à faire ce métier-là, mais c'était des petites idées. Mais par contre, en fait, j'ai été vite amenée dans le bain. Le sport et le ski m'a vite pris beaucoup, pas de mon temps, mais a pris beaucoup de place dans ma tête. Et du coup, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir à d'autres choses que j'avais envie de faire. En fait, pour moi, c'est pas que je me projetais. Et que déjà jeune, je me faisais une idée de faire ce métier, parce que je savais même pas que c'était un métier. Mais c'est plus qu'en fait, je vivais l'instant présent. J'étais dans mon truc, je faisais mon ski je me projetais pas trop, quoi. Donc voilà.
Non, mais tu vois, il n'y a jamais eu, je sais pas, quelqu'un que tu as rencontré où tu t'es dit, tiens,
c'est génial, ce
cette personne, c'est intéressant de son métier, ou ah tiens, lui.
Probablement, mais non, je pense que j'étais percuté, tellement quoi. Dans mon truc, passionnée par mon environnement, ma pratique, voilà.
Okay.
J'ai eu la chance de vraiment tomber sur, sur l'activité qui était faite pour moi, j'ai l'impression, en fait. Okay. Donc, voilà. Maintenant, il va falloir trouver la deuxième.
Ok. J'ai trois petites questions de la fin.
Ouais.
Je ne te les ai pas envoyées, mais elles sont très simples, tu vas voir. La première question, c'est que si tu pouvais dire un petit mot à la Tess de 15 ans, tu vois,
ouais,
qui commence à arriver sur le circuit professionnel et qui est en train de découvrir, qui est dans l'instant présent, qui vit, qui se pose pas trop de questions, qui est un peu insouciante. Si tu avais envie de lui dire quelque chose, tu lui dirais quoi ?
Ouais, c'est dur. C'est dur, je lui dirais de s'éclater, de profiter. Donc, elle va avoir de belles années devant elle, mais profiter, ouais, surtout, parce que c'est vrai que dans ma carrière, il y a eu des moments, comme tout le temps, hein, où on ne se rend pas compte de la chance qu'on a, de faire ce qu'on aime, voilà, d'en profiter comme ça. Et puis, des fois, on se sent un peu submergé par les enjeux, les objectifs, les choses comme ça. Et, en fait, après, quand on prend un peu de recul, on se dit, mais enfin, non, il n'y a pas de problème, tout va bien, tu t'éclates, tu profites, et voilà, quoi. Simplement. Okay. Même si à 15 ans, je pense que c'était le cas. C'est peut-être plus dans les années 19, 20 ans que ça commençait un petit peu à cogiter et que j'ai fait cette transition de l'insouciance à la sagesse qui a duré quelques années avant d'être vraiment un peu plus sage.
Ok. À l'inverse, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton toi du futur ? Qui aurait 50 ans, 60 ans. Si tu veux lui dire un petit mot...
Dur, ça aussi. C'est pas commun non plus. Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire ? Bravo, enfin d'être fière, quoi, de ce que... Alors, entre-temps, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, déjà, de ce qui a été accompli, aussi de la personne un petit peu que je suis devenue, enfin voilà, l'évolution personnelle que j'ai eue durant ma carrière, puis ouais, d'être restée authentique, voilà, d'être restée moi, donc non, d'être fière de ça, okay, de ce parcours.
Bon ben bah, très bien. Je trouve qu'on apprend beaucoup sur les gens en posant ce type de questions. Ouais. Donc, elles sont pas faciles, mais...
Non, c'est dur, ouais.
Mais en tout cas, les réponses sont toujours hyper intéressantes. la toute dernière question est beaucoup plus pragmatique et terre à terre. J'ai tes yeux, oula. Il va encore m'emmener nulle part. Non, c'est un petit peu un passage de flambeau. J'aime bien rencontrer les amis d'amis via le podcast parce que je le fais pour l'aventure humaine.
Ouais.
Tu vois, tout comme je t'ai contacté parce que t'avais été cité plusieurs fois par Arnaud Boissière aussi, que j'embrasse
oui,
et que je remercie.
Oui, bien sûr, Arnaud. Ouais.
Et du coup, la question, c'est à qui tu aimerais donner la parole, à quel athlète français tu tendrais le micro pour découvrir un petit peu plus en détail certains passages de sa vie ou pour aborder certains sujets en particulier. Voilà, si c'est des gens que tu connais ou dont tu sais que ils auraient pas mal de choses à dire, je suis tout oui.
Ouais. Alors j'ai pensé pendant nos discussions là, ben notamment la discussion sur la peur, j'ai tout de suite pensé à un athlète, un skieur français, Adrien Théo. Mmh. Alors voilà, j'aurais vraiment envie d'avoir son ressenti là-dessus. C'est quelqu'un qui a vécu ce genre d'expérience.
Okay.
Et qui pour moi a réussi son retour. Voilà, après je sais pas du tout s'il a envie d'en discuter ou pas, mais ça serait vraiment super intéressant. Je pense qu'il a beaucoup beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est assez d'actualité en plus. Je suis un petit peu Rénelle Lamotte sur les réseaux.
Ok.
Elle se livre déjà beaucoup sur les réseaux. mais voilà, je la trouve rigolote. Elle est très très transparente dans ses émotions, tout ça. Et puis ça serait intéressant de peut-être de d'en savoir encore plus si elle a pas déjà tout tout dévoilé, pourquoi pas. Mais en tout cas, l'athlète, c'est un sport qui m'impressionne, qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que c'est hyper ingrat, c'est dur, c'est, enfin voilà, puis faut, enfin ouais, le travail qu'il y a derrière, c'est impressionnant. Donc voilà, pourquoi pas avoir un petit.
Bah écoute, je connais bien Renelle, mais je vais lui proposer de revenir. Je vais lui proposer de
revenir. C'est vrai, elle a déjà fait, moi. Ouais,
on s'est rencontrés il y a 2 ans. Alors, on est toujours en contact, tu vois, on rigole.
Ah, bah, faut que je l'écoute alors, parce que là, j'ai écouté.
Mais il était vraiment bien, ouais. Il était vraiment bien.
J'ai écouté celui de Axel Clerget, que je connais un petit peu, que j'aime beaucoup aussi. Donc,
T'as bien aimé ?
Ouais. Okay. Non, super.
Mais c'était particulier, effectivement, en plus sur le sujet de la commotion, sur le sujet du combat, du poids.
On découvre. Un peu plus en profondeur aussi leur sport qui est impressionnant. Ouais. plein de sportifs méga intéressants de toute façon, mais c'est voilà. Je t'ai donné ceux qui me passaient par la tête comme ça.
Bah écoute, c'est parfait. Je connais pas bien Adrien. Je sais effectivement que il aurait probablement beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ouais. Et bravo à lui. Ouais. Donc merci infiniment. Et puis,
merci à toi.
J'ai passé un super moment.
Ouais, moi aussi.
On a un peu rigolé, on a fait des choses inspirantes. Ouais. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite.
Merci, ouais, c'est et gentil, puis, toi aussi. Bonne continuation.
Puis comme disait ma maman, je te dis à très vite, puisque il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent jamais.
Voilà. C'est ça.
Salut.
À bientôt, salut, ciao. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.